Ce soir, nous allons voir un verset dans la parole de Dieu, l'Épître aux Galates, chapitre 6. Nouveau Testament, Épître aux Galates, chapitre 6. Et nous allons regarder versets 7 à 9. Galates 6, versets 7 à 9. « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Voilà donc un encouragement et un avertissement en même temps. L'avertissement, c'est on ne se moque pas de Dieu et on moissonne ce qu'on sème. L'encouragement, c'est ne vous lassez pas de semer pour les bonnes choses, car il y a une moisson pour le bien aussi, aussi bien que pour le mal. Le contexte, c'est le verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alors, il ne faut pas l'interpréter comme « donne tous ses biens », mais fasse une part, donne une partie de ses biens à celui qui l'enseigne. C'est une exhortation pratique à soutenir le pasteur, les prédicateurs dans son église. Et ensuite, il donne un principe. Si vous ne semez pas beaucoup, si vous ne soutenez pas vos prédicateurs, vous semez pour la chair et vous ne moissonnerez pas grand-chose. Et notre Église n'a pas vraiment ce problème, je dirais, mais il y a des églises en France qui n'ont pas cette vision de soutenir leur pasteur ou des jeunes étudiants ou des jeunes pasteurs qui se lancent dans le ministère, qui ont fini leurs études. Et ça fait que les églises se retrouvent avec un manque de pasteurs en France. Et ce n'est pas que Dieu n'appelle pas les gens, Dieu appelle des gens. Mais c'est qu'un certain nombre ne répondent pas à l'appel parce qu'ils ont trop peur. Ils disent, mais comment je vais vivre si j'ai des enfants? Qu'est-ce qu'on va manger? Et du coup, ils hésitent énormément à se lancer. Et donc le Seigneur nous encourage là à soutenir les prédicateurs, ceux qui font part de la parole. C'est leur métier d'une certaine façon, hein, c'est leur travail. Et ils doivent, alors il faut aussi que ces prédicateurs passent du temps dans la parole. C'est-à-dire, si le prédicateur, le samedi soir, pendant 10 minutes, il griffonne son message pour le dimanche matin, il n'a pas beaucoup travaillé dans la parole. Mais le prédicateur doit être tout le temps dans la parole de Dieu. Et c'est son ministère, son service. Et il doit être soutenu matériellement par les frères et sœurs pour cela. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce point, c'est juste une exhortation. Mais j'aimerais élargir, c'est un principe universel qu'on moissonne ce que l'on sème. Il y a plusieurs passages dans la Bible, je vais vous les lire comme ça à la suite. Job 4:8. « Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. » Proverbe 22:8. « Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité. » C'est très proche. 2 Corinthiens 9:6. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. » Et là encore, le contexte, c'est les libéralités, la générosité matérielle. Prophète Osée, chapitre 8, verset 7. Et c'est le fameux proverbe qu'on utilise dans la langue française. « Puisqu'ils ont semé du vent, ils récolteront la tempête. Hein ?» Comme quoi, il y a plein d'expressions françaises qui sont dans la Bible. Et il parle aussi à Israël. Hein. Ils ont semé le vent et tout ce qu'ils vont récolter, c'est la tempête. Donc, c'est un principe universel. Lorsqu'un agriculteur plante une semence, il sait et il peut être certain que ce qui va pousser, c'est ce qu'il a planté. S'il a planté du blé, il ne va pas pousser un pommier. Et ça, il peut être rassuré là-dessus. Et c'est quand même merveilleux comme principe. C'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Chaque semence donne le fruit prévu. Mais si le laboureur ou l'agriculteur plante de mauvaises choses, il va récolter de mauvaises choses aussi. Quand on sème le mal, quand on sème la folie, quand on sème la haine entre les gens, quand on sème la division, eh bien, on ne va jamais récolter la paix, l'amour et la justice. C'est un principe universel. Alors, j'aimerais faire une aparté pour dire, attention, ne pas mal interpréter ce passage. Quand il dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera la corruption et celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle », il n'est pas en train de dire qu'on gagne la vie éternelle en semant des bonnes choses, en semant du bien. Parce que ça pourrait être interprété comme ça, plus tu fais du bien, des bonnes actions, plus tu vas récolter la vie éternelle. C'est contradictoire avec le reste des Écritures, donc ça ne peut pas être ça l'interprétation. Hein. Toute l'Écriture dit que le salut, la vie éternelle, est un don, un cadeau gratuit. Romains 6, 23, est-ce que quelqu'un le connaît par cœur ? Le salaire de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis, on a également Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Voilà. Donc, la Bible est très, très claire, l'Évangile est très clair. On n'est pas sauvé par nos œuvres. Ce n'est pas parce que vous faites du bien toute votre vie qu'à la fin, Dieu va dire, toi, tu as mérité d'avoir la vie éternelle. C'est beau comme histoire, mais ce n'est pas la réalité parce que même si on fait du bien toute sa vie, on fait des péchés aussi. On transgresse la loi de Dieu, et plus qu'on ne l'imagine. Parce qu'on se compare souvent aux autres, on se compare à soi-même, on dit, mais moi je me trouve très bien, je fais du bien, moi je ne vois pas le mal. Mais si on se comparait à Dieu, au Dieu vivant, au Dieu saint, ou même à Jésus-Christ sur la terre, on verrait qu'on est vraiment pécheur, qu'on est vraiment loin de Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter au ciel des gens orgueilleux qui disent, moi je mérite d'avoir la vie éternelle. Déjà, c'est le premier péché, c'est l'orgueil, hein. Et moi, je mérite d'avoir la vie éternelle. Pour venir au Seigneur, il faut venir avec humilité et dire, Seigneur, je suis pécheur. Vous rappelez la parabole de Jésus dans le temple, le publicain et le pharisien. Le pharisien vient prier, il est debout, et il dit, oh Dieu, je te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont mauvais. Et Jésus dit, cet homme est rentré chez lui sans être pardonné. Sans être pardonné. Le publicain, c'était des gens qui traficotaient avec les Romains, donc ils étaient plutôt des gens de mauvaise vie. Lui, il vient prier et au lieu d'être debout, il se met à genoux, hein, il se tape la poitrine et dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et Jésus dit « Cet homme est rentré chez lui, pardonné, justifié. » Et c'est une belle prière si quelqu'un se demande comment être prié, que dire à Dieu pour être sauvé. Vous pouvez dire ça, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Parce que je suis un pécheur, j'ai besoin que tu me pardonnes, que ta colère se détourne et la colère de Dieu, est tombée sur Christ à la croix. Donc, ce passage n'est pas en train de nous enseigner un salut par les œuvres. Il est en train de parler de la vie chrétienne, de la sanctification, mais aussi d'un principe universel. Celui qui sème le mal, il va récolter le mal, celui qui sème le vent, il va récolter la tempête. Et le chrétien qui vit pour le Seigneur, il sait qu'il a une moisson à la fin de sa vie. C'est ça l'encouragement. Le chrétien, il va faire du bien pour le Seigneur, pour la gloire de Dieu, parce que Dieu, par acquis de conscience, le chrétien, il va investir sa vie pour les autres, pour le Seigneur et pour les autres, pardon. Il va peut-être se sacrifier dans certains domaines. Il va renoncer à certaines choses, il va subir des persécutions, le chrétien. Mais Dieu lui dit, sois encouragé, tu moissonneras. Et dans la vie éternelle, tu auras cette moisson magnifique, tu verras tous les fruits que tu as semés, hein, et ce sera merveilleux, des âmes sauvées peut-être, des personnes à qui on a témoigné, des chrétiens qu'on aura encouragés, etc., etc. Une autre chose aussi, c'est la chair, le mot chair, celui qui sème pour sa chair. La chair, ce n'est pas le corps. On a cette idée que Dieu ou la Bible fait une distinction entre le corps et l'esprit. C'est-à-dire, le corps, c'est mauvais et l'esprit, c'est pur. Or, dans la Bible, il n'y a pas cette distinction. Dieu a créé le corps, l'âme et l'esprit. Nous sommes créés avec tout. Et donc, Dieu n'est pas en train de dire, il ne faut pas semer pour le corps et il faut semer pour l'esprit. Il ne faut pas être physique, il faut être juste totalement spirituel, n'est-ce pas ? Moi, je ne fais rien. Dans le monde matériel, je ne fais rien, donc je vais dans un monastère prier jusqu'à la fin de mes jours pour l'esprit. Non, ce n'est pas ça. La chair, là, c'est la vieille nature, l'ancienne nature rebelle à Dieu. Et l'esprit, c'est le Saint-Esprit, cette nouvelle nature qui nous a été greffée et qui aime Dieu. Alors, il y a un grand danger à semer pour sa chair. Il le dit ici, on ne se moque pas de Dieu. Ça veut dire qu'il y aura un jugement. Hein. Celui qui sème pour la chair moissonnera la corruption. Il y a un jugement immédiat et un jugement futur. Le jugement immédiat, c'est que quand vous semez, quand vous vivez selon la chair, selon la nature rebelle à Dieu, elle vous entraîne dans la corruption, dans le péché, de plus en plus bas. Le péché n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser. On ne peut pas dire, voilà, je vais pécher jusqu'à un certain point et après je m'arrête. Non, le péché, quand il vous prend, il vous emmène le plus bas possible, le plus loin possible. Et quand on sème pour la chair, on moissonne déjà dans sa vie beaucoup de choses mauvaises, dans les relations humaines, dans sa santé, dans sa santé mentale. On moissonne déjà dans sa vie des choses horribles. Mais en plus, le Seigneur dit, hein, ceux qui vivent dans le péché, qui ne se repentent jamais, seront condamnés éternellement, seront séparés de Dieu pour l'éternité. Et ça, c'est le pire des jugements, évidemment. C'est le jugement éternel, le jugement où on ne peut plus revenir en arrière. Tant qu'on est sur terre, il y a une chance, on peut se repentir. Mais quand on est mort, la Bible dit, après la mort vient le jugement. Et ce jugement, c'est le jugement sur tous les péchés qu'on a commis, même ceux probablement qu'on a pensés, les péchés que certains ont vus, mais les péchés que les gens, personne n'a vus, les choses secrètes, on va comparaître devant Dieu. En Hébreux 4:13, la Bible dit que nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Parfois, les hommes se disent, je vais m'en tirer. Hein. Aucun juge n'est venu m'arrêter, aucun policier n'a vu ce que j'ai fait. Je m'en suis bien tiré. Mais au jour du jugement, ça ne sera pas pareil. On est nu, on est à découvert devant le Créateur. Et là, beaucoup de gens vont s'en mordre les doigts ou avoir les dents qui grincent, comme dit la Bible, hein, les grincements de dents, lorsqu'ils seront condamnés pour l'éternité. On ne peut pas vivre sans penser à Dieu et aller au paradis. Pourtant, il y a des personnes qui le pensent. Ils disent, moi, Dieu, tout ça, ça ne m'intéresse pas, la vie éternelle. Voilà. Oui, mais quand vous mourrez, qu'est-ce que vous aimeriez ? Ah ben, j'aimerais quand même aller au paradis. Ben oui, mais comment tu vas y aller au paradis ? Oh ben, Dieu verra bien quand même. Dieu verra que je n'étais pas un mauvais bougre. Et non, tout ce que Dieu va voir, c'est ce que tu es vraiment, c'est-à-dire un pécheur, une pécheresse. Et il ne pourra pas t'amener avec lui. Il faut être un enfant de Dieu, il faut devenir un enfant de Dieu par la foi. Et on ne peut pas vivre pour soi-même et ensuite dire « Seigneur, accepte-moi au ciel ». Il doit y avoir une conversion, il doit y avoir une repentance, on doit se tourner vers Christ. Sans ça, on va en enfer directement. Large est le chemin, hein, qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui vont par là. Le chemin large, c'est continue ta vie comme ça, égoïste et orgueilleuse. Et puis, elle va tomber dans le trou, hein, éternel, dans l'étang de feu, comme dit la Bible. On ne peut pas vivre dans des péchés et les considérer comme bons et espérer aller au ciel. Regardez avec moi 1 Corinthiens 6, versets 9 et 10. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 6, versets 9 et 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Ils n'iront pas au ciel, hein, les injustes. ne vous y trompez pas. Il dit, c'est la même expression hein, qu'on a en Galate. Ni les débauchés. Donc les gens qui ont des relations sexuelles n'importe comment, dans l'immoralité. Ni les idolâtres, ceux qui adorent des statues, des faux dieux, etc. Ou même l'argent, hein, ou même les voitures, ceux qui ont une idolâtrie, une idole qui n'est pas le vrai Dieu. Ni les adultères, c'est-à-dire ceux qui trompent leur conjoint. Ni les efféminés, donc ceux qui vivent comme une femme alors que ce sont des hommes. Ni les homosexuels, ceux qui ont des relations sexuelles avec d'autres hommes. Ni les voleurs, ceux qui pensent qu'ils ont le droit de prendre aux autres ce qu'ils n'ont pas. Hein, en disant, moi je suis pauvre, lui il est riche, donc je suis Robin des Bois, je vais lui voler ce que je n'ai pas. Ni les cupides, c'est-à-dire ceux qui vivent pour l'argent et qui sont prêts à sacrifier toute personne pour avoir plus d'argent. Ça peut être certains traders, hein, par exemple. Ça peut être des gens de toutes sortes. Ni les ivrognes, c'est-à-dire les gens qui sont voués à l'alcool, qui se sont donnés à l'alcool et qui ne s'arrêtent plus. Ni les outrageux, les gens qui insultent tout le monde, hein, et qui méprisent tous ceux qui les entourent et qui sont vulgaires. Ni les ravisseurs, ça, les ravisseurs, ce sont aussi, c'est traduit les voleurs d'hommes, c'est les gens qui volent les gens et qui les mettent en esclavage. Alors à l'époque, c'était pour faire des esclaves, hein. Ils allaient piquer des enfants et ils faisaient leurs esclaves, mais ça existe encore aujourd'hui. Les ravisseurs, il y a les... Certains terroristes musulmans, n'est-ce pas, tous les quatre matins, ils sont en train de prendre des otages. Et puis, il y a dans nos pays, il y a des gens qui retiennent en captivité chez eux hein, des personnes pour les rendre esclaves. Hein. Ils les font travailler, ils les violent et ils ne les payent pas. Enfin, il y a des cas terribles encore aujourd'hui. Tous ces gens-là n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ils n'iront pas au ciel dans leur péché-là. Et ils peuvent se dire, mais aujourd'hui, je pense, bon, l'homosexualité est acceptée en France. Maintenant, on peut se marier. Tout le monde dit que c'est bien, c'est ton choix. Si tu veux être homosexuel, tu es homosexuel. La Bible, là, dit qu'on ne peut pas être homosexuel pratiquant, si on peut dire, et hériter le royaume de Dieu. On ne peut pas être un voleur pratiquant et hériter le royaume de Dieu. Alors, si on a volé une fois... et qu'on s'est repenti. Si on a eu une relation homosexuelle et qu'on s'est repenti, qu'on ne l'a plus. Si on avait des problèmes d'identité sexuelle et qu'on l'a réglé. Si on était addict à l'alcool ou à une drogue et qu'on s'est repenti, on l'a réglé. Bien sûr, tout cela après est effacé. Il le dit, hein, verset 11, « C'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. » Donc dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui avaient cette vie. Mais vous avez été lavé, vous avez été sanctifié, vous avez été justifié, pardonné au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Hein? Quel que soit le péché dans lequel je suis, je peux être lavé, je peux être justifié, pardonné. Mais encore faut-il que je le reconnaisse comme un péché. Aujourd'hui, le piège du diable, hein, c'est de changer le péché, de dire non, ce n'est pas un péché, c'est la religion qui dit ça. Mais tu as le droit de faire... Voilà. Même certains encouragent le vol, des fois, hein, en disant, oui, tu peux travailler au noir, hein, tu peux ne pas déclarer aux impôts. Hein, les impôts, ils nous prennent assez d'argent comme ça. Mais d'un point de vue chrétien et biblique, vous volez l'État. Quand vous trichez sur une déclaration aux ascédiques ou à la sécurité sociale, vous volez l'État, vous êtes un voleur. On ne réalise pas toujours ça, on dit... J'ai juste mis un truc différent sur ma feuille. Oui, tu as mis un truc différent, tu as volé. C'est pas comme si tu allais piquer dans la caisse, mais c'est du vol. Peu importe ce qu'on pense de l'État ou des impôts ou de la sécu, hein, on doit être soumis aux autorités, dit la Bible. Et heureusement, on peut être pardonné. Mais la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on sème, on le moissonne. Celui qui vit dans le péché, il va moissonner la perdition éternelle. La corruption déjà dans sa vie, mais la perdition éternelle. Il y a une bénédiction pour ceux qui sèment pour l'esprit. Alors, c'est les chrétiens qui sèment pour l'esprit parce qu'ils ont le Saint-Esprit. Si on n'est pas chrétien, on ne peut pas semer pour l'esprit. On peut faire un peu de bien par-ci, par-là, on peut essayer de s'améliorer, d'être gentil, mais ce n'est pas semer pour l'esprit. C'est vraiment une expression qui s'adresse aux chrétiens. Et là, il s'adressait aux chrétiens de Galatie. Et il veut les encourager parce que ces chrétiens, peut-être étaient soit radins avec leur argent, soit radins avec leur vie, soit ils se disaient, mais à quoi ça sert de faire du bien? De toute façon, on n'a que des problèmes. Hein? Regarde les gens du monde, ils trichent, ils volent, il leur arrive rien. Et moi, je fais des sacrifices, je me donne au Seigneur et regarde, j'ai que des problèmes, des persécutions, des obstacles, des épreuves. Et ces chrétiens avaient une vision un peu décourageante de la vie chrétienne. Et Paul, là, veut, le Saint-Esprit veut les encourager. Ne te lasse pas de faire du bien. Ne dis pas ça sert à rien, parce que tu moissonneras au temps convenable. Ce n'est pas toi qui décides le temps convenable, c'est Dieu. Si nous ne nous relâchons pas, ne te relâche pas, n'arrête pas de faire du bien. Sème, sème. Et dans la semence, il y a quelque chose qui est difficile, c'est que vous semez à une certaine époque, mais vous ne moissonnez pas le lendemain. Nous, on aimerait. Voilà, je plante et demain, la nuit passe, je reviens, ah, ça y est, je peux récolter. Et non, il y a un temps. Et c'est dur d'attendre, de dire, mais moi, je ne vois rien venir. J'ai semé et je ne vois rien. Je pense pour l'Évangile. Il y a ces cantiques qui dit sème. sème l'Évangile, sème la parole de Dieu. Il y a même le verset qui dit, sème ton pain le long des eaux et tu le retrouveras. Et... on dit, mais ça fait combien d'années que je sème, que je prie, que je parle, que j'invite? Combien d'années que je témoigne? Combien d'années que je prie pour qu'il se passe quelque chose? Et le Seigneur dit, sème encore, ne te relâche pas, tu moissonneras au temps convenable. Ne t'arrête pas, ne dis pas, ça ne sert à rien. C'est le Seigneur qui te donnera la moisson. La moisson est certaine. Ici, il le dit, c'est certain. Tu moissonneras. Il ne dit pas... il y a des chances que tu moissonnes. Non, c'est une promesse de Dieu ici. Si tu sèmes pour l'esprit, tu moissonneras la vie éternelle. Et il y a ce psaume encourageant sur cette question, vous devez le connaître. Psaume 126, verset 5. Qui est bien connu. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous avez bien compris que c'est pas le lendemain c'est des mois plus tard. Quand il sème, il pleure parce que c'est dur. Parce qu'il a fallu labourer, parce que quand vous semez, la semence disparaît et puis on ne la voit plus, il n'y a plus rien. Et c'est des semaines après qu'on voit la tige qui commence, et puis des mois plus tard que la moisson, vous portez les gerbes, ah, loué soit Dieu, je moissonne le fruit de mon labeur, je moissonne ce que j'ai semé. Et on parlait du fruit de l'esprit la dernière fois, c'est un peu la même chose. Quand on vit pour le Seigneur, il y a un fruit qui sort, il y a une moisson. À nous de semer, même si c'est avec larmes. On sème en France l'Évangile avec larmes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont durs, qui ont l'air de dire « mais ça ne m'intéresse pas », et on se dit « c'est pas possible ». Comment ils peuvent être aussi durs devant l'amour de Dieu? Et ça nous fait pleurer. Mais le jour où il y aura la moisson, la grande moisson, on aura les gerbes d'âme, les personnes qui vont venir au Seigneur, qui vont dire « dites-moi comment être sauvé ». Là, on va être dans la joie, dans l'allégresse même. C'est plus que la joie, c'est l'allégresse. Alors, c'est un encouragement ici à semer pour l'esprit et de ne pas s'arrêter. On peut semer avec ses biens matériels, par exemple. Voilà, le Seigneur m'a donné un certain nombre de biens matériels. J'aimerais en investir, en semer une partie pour le royaume de Dieu. J'aimerais soutenir des missionnaires. J'aimerais aider des frères en difficulté. J'aimerais aider une association qui aide les missionnaires ou je ne sais pas, peu importe. Mais j'aimerais semer mon argent, mes biens matériels. J'aimerais aussi peut-être prêter ma voiture, prêter mon appartement ou prêter un tel objet ou accueillir chez moi, être hospitalier. Tout ça, ça fait partie de semer. Parce que vous donnez quelque chose et vous n'avez pas forcément de fruits immédiats. Nous, on aime bien avoir les fruits immédiats, encore une fois, mais Dieu dit non. Quand tu sèmes, tu attends la moisson. Parfois, on fait des choses et personne ne nous dit merci. Ou personne ne reconnaît ce qu'on a fait. Et quand même, j'ai passé 3 heures à faire telle ou telle chose et personne n'est venu me dire ah, bravo, formidable. Alors moi, la prochaine fois, rien du tout. Hein. Ça, ce n'est pas une attitude chrétienne. L'attitude chrétienne, j'ai passé ces 3 heures pour le Seigneur, pour l'Église ou pour telle ou telle personne. C'est pour la gloire de Dieu. Et un jour, je moissonnerai quelque chose de ça. Je ne sais pas quoi, mais un jour, il y aura une moisson, une bénédiction. Combien de fois il y a des gens qui ont donné de l'argent, par exemple, à quelqu'un qui avait un besoin. Et vraiment, ça, c'était un sacrifice. C'est-à-dire, ils ont dit, cet argent, j'aurais bien aimé le garder pour dépenser pour moi, mais j'ai vu le besoin, j'ai dit, bon, allez. Et des années plus tard, ils sont dans le besoin et quelqu'un leur donne cet argent. C'est pas forcément la même personne, hein, c'est quelqu'un d'autre. Mais il y a ce sorte de cycle-là. Vous donnez d'un côté, mais vous recevez de l'autre. Voilà. Et on reçoit sur terre, et Jésus l'a dit, hein, celui qui donnera sa vie hein, pour le royaume, il recevra déjà sur terre, au centuple, mais on reçoit surtout dans la vie éternelle. Dans la vie éternelle, hein, nous aurons dans les tabernacles célestes, comme dit Jésus, nous aurons plein de bénédictions, plein de découvertes. On va dire, mais ah oui, j'avais prié pour cette personne et elle est là. J'avais évangélisé cette personne et je n'avais jamais venu venir à l'église et elle est là. Elle est au ciel, elle aussi, elle est sauvée. Et ce chrétien-là, je croyais qu'il avait disparu de la circulation, mais il est là. Et il y aura des bénédictions extraordinaires au ciel, une moisson magnifique. On peut semer aussi avec nos paroles. C'est pour ça qu'il faut bien maîtriser sa langue. On peut semer vraiment des paroles qui font du bien. Des paroles de Dieu d'abord, des versets, hein, aux frères et sœurs ou aux incroyants. Dire, tu sais, la parole de Dieu dit ça. Alors, sur le coup, la personne dit, ouais. Mais la parole de Dieu agit. Et il va y avoir une moisson. Par contre, si avec mes paroles, je dis n'importe quoi comme ce qui me passe par la tête, je ne vais rien récolter. Hein. Il faut semer, il faut dire, voilà, je veux planter la semence de la parole dans ce cœur. Je veux être une bénédiction pour ce frère ou pour cet incroyant. On peut semer avec des actes, évidemment. Hein. Vous donnez votre cœur, votre vie, vous aidez quelqu'un en difficulté. On peut semer nos pensées, pour nos pensées aussi. Nos pensées ont une influence sur notre comportement. Je suis ce que je pense, hein, et je fais ce que je pense au départ. Tout péché commence dans la pensée. Hein. La tentation vient dans la pensée, et puis ça dépend ce qu'on en fait. Si on dit non, je n'en veux pas, ça s'arrête là. Mais si on commence à la laisser venir dans la pensée et s'installer, hop, ça va venir, ça va se transformer en péché. C'est ce que dit Jacques. Hein. Il dit hein, que notre convoitise hein, enfante le péché. Et donc, on doit semer des bonnes choses pour les pensées. On doit être dans les choses spirituelles. C'est dans l'épître aux Philippiens, hein, chapitre 4, où il dit que tout ce qui est bon, ce qui est digne de louange, ce qui est vraiment édifiant, soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que je sème dans ma pensée? Parce que si je sème certaines choses, qu'est-ce que je vais récolter? La haine, l'orgueil, la dépression? On peut s'auto-déprimer. On peut s'enfoncer tout seul, dire, de toute façon, ça ne sert à rien. Et puis, on sème, et puis à un moment, on récolte, dépression. Alors que si on sème les versets de la Bible aussi dans son âme, quand on mémorise la parole, hein, quand on prie pour les autres, quand on dit, Seigneur, je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre, on va ensemble avoir la victoire spirituelle. Là, on sème pour le bien, dans sa pensée. On peut aussi semer dans l'âme des enfants. Les enfants sont comme des plantes. Hein. Si on les arrose bien, on sème bien dans leur petit cœur, leur âme, on récolte quelque chose de magnifique. Parfois, les enfants, un jour, se rebellent, hein, ça arrive, que des enfants qui ont été élevés dans la foi, quand ils deviennent adolescents ou même plus tard, non, je ne veux plus rien savoir, je ne veux plus aller à l'église. Mais un jour, ils reviennent, parce qu'il y a quelque chose qui a été semé, qu'on ne peut pas arracher. J'ai toujours été touché par l'histoire de cet homme qui avait sombré dans sa vie d'adulte entre l'alcool, la délinquance et toutes sortes de choses. Et un jour, il dit, je ne vois pas pourquoi je vais continuer à vivre sur cette terre, ça n'a aucun sens, je vais me suicider. Donc il avait un pistolet. Il est monté sur la colline en haut de sa ville, son petit village là. Et il y avait le clair de lune. Et il a armé son pistolet et il allait se tirer une balle dans la tête. Et à ce moment-là, juste avant d'appuyer, la lune, il y a quelque chose, ça lui a fait penser à son enfance. Et il a pensé, lorsque sa maman le tenait sur les genoux, et lui chantait des cantiques et lui parlait du Seigneur Jésus. C'est ça qui lui est venu à ce moment-là. Et il a pleuré, il s'est dit, mais c'était merveilleux. Et pourquoi j'ai pas continué comme ça? Et il a posé son pistolet, il a dit, c'est pas possible, il faut que je réentende l'évangile, il faut que je revienne. Et il a laissé son pistolet, il est redescendu, et il est devenu chrétien, un vrai chrétien. Et ce qu'on sème dans l'enfance est précieux. Si on dit à un enfant, tu es bon, un bon à rien, tu n'arriveras jamais à rien. Si on dit à un enfant, on lui enseigne toutes sortes de mauvaises choses, de mauvais comportements, malheureusement, hein, l'enfant, il va continuer dans la voie où on l'a instruit. Dans l'Église aussi, et je terminerai avec ça, on peut semer toutes sortes de choses. Et il faut penser que l'Église est comme un champ où il y a des plantes et des arbres différents. Et le Seigneur veut qu'il y ait des nouvelles âmes. Et on doit s'occuper des nouvelles personnes, les encourager dans la foi, les suivre, les prier pour eux. Les aimer, les aider à avancer parce que la vie chrétienne a des épreuves, il y a des combats, il y a un ennemi et on doit semer pour le salut et pour la sanctification des frères et sœurs. Si on s'arrêtait juste à ce verset, on pourrait dire, mais alors il y a deux choses. Si tu as semé pour le bien, tu as la vie éternelle et la moisson, mais si tu as semé pour le mal, c'est fini pour toi? Tu vas en enfer? Heureusement, il y a encore une fois le pardon de Dieu qui peut intervenir. On l'a vu déjà dans 1 Corinthiens, mais si vous avez semé le mal, vous pouvez encore vous repentir et vous pouvez corriger les choses. Il y a des choses qui vont pousser quand même. On moissonne malheureusement un certain nombre de conséquences de nos péchés. Et ça, rien ne peut les enlever. Si vous avez tué quelqu'un, ben vous allez pas le... Dieu ne va pas le ressusciter. Voilà. Si vous avez volé, que vous allez en prison. Vous allez aller en prison. Mais il y a des choses quand même que Dieu peut arrêter. Et c'est à nous de nous repentir, dire Seigneur, là, j'ai vraiment semé le mal. Là, je n'ai pas encouragé le Saint-Esprit dans ma vie. Je n'ai pas marché avec le Seigneur. Seigneur, je veux revenir à toi. Il est toujours temps de revenir au Seigneur. Et il nous offre sa grâce. Et il est prêt à nous accueillir. Ici, on a vu, hein. Ne nous relâchons pas, nous moissonnerons au temps convenable. Et c'est ça qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il tient ses promesses. Nous pouvons baser notre foi sur les promesses infaillibles de Dieu. Alors semons, semons encore, comme dit le cantique, car nous moissonnerons.